Philippe Nanzer.
Le FC Bâle a remporté la Coupe de Suisse de football cet après-midi pour la 14e fois de son histoire. Au stade du Wankdorf à Berne, Bienne n'a certes pas démérité, mais a quand même été battu sur le score sans appel de 4-1. Éliminé par les Biennois en demi-finale, le Lausanne Sport est l'autre grand gagnant de ce premier dimanche de juin, puisque le doublé du FC Bâle, c'est-à-dire championnat et coupe, ouvre aux Lausannois les portes de la Conference League avec une entrée en lice dans le deuxième tour qualificatif. Ce sera le 24 juillet prochain. Les joueurs du Paris Saint-Germain, eux, ont été accueillis en héros cet après-midi sur les Champs-Élysées à Paris, et ce, après leur sacre en Ligue des Champions hier soir. Une victoire qui a généré une nuit de fête dans la capitale française, une nuit également émaillée de débordements. L'Ukraine mène aujourd'hui une vaste attaque coordonnée de drones contre des aérodromes militaires en Russie. Selon l'Ukraine, une quarantaine de bombardiers stratégiques utilisés pour bombarder les villes ukrainiennes ont été touchés, voire détruits. Les objectifs visés vont jusqu'en Sibérie. En effet, les deux aérodromes mentionnés par Kiev se situent à près de 1900 km et environ 4300 km de la frontière russo-ukrainienne. Moscou dit avoir arrêté des suspects qui servent d'appui logistique en Russie pour les forces ukrainiennes. L'armée israélienne a nié avoir tiré ce matin sur des civils à proximité d'un centre d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La défense civile palestinienne affirme de son côté le contraire et fait état de plus de 30 morts ainsi que de plusieurs blessés à la suite de ces tirs israéliens. Le Suisse Philippe Lazzarini, qui est le chef de l'UNRWA, interdite en Israël depuis le début de l'année, déplore que la distribution d'aide humanitaire à Gaza soit devenue, je cite, « un piège mortel ». Et sur le plan diplomatique, le Qatar et l'Égypte annoncent ce soir vouloir intensifier leurs efforts en vue d'une trêve. Et dans une lettre commune, 56 anciens diplomates suisses se disent choqués par le silence et la passivité de la Confédération suisse face à ce que les signataires désignent comme étant un crime de guerre, des crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Ces diplomates exigent des mesures immédiates contre le pays hébreu. Et puis l'armée israélienne qui d'autre part affirme avoir intercepté aujourd'hui un missile tiré depuis le Yémen en direction de son territoire. Un tir qui a déclenché des sirènes d'alarme à Jérusalem et dans d'autres villes du pays. Plus tard dans la journée, les Houthis qui contrôlent de larges pans du Yémen ont confirmé avoir tiré en effet un missile balistique sur l'aéroport international de Tel Aviv. La météo, eh bien, le ciel s'est couvert en fin d'après-midi. Il faut s'attendre donc à des averses et des orages, d'abord sur les reliefs, puis durant la soirée en pleine. Demain, le ciel continuera d'être couvert, toujours avec des averses dès le matin, des averses qui s'intensifieront d'ailleurs. Le thermomètre, lui, redescendra aux alentours de 20 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Voix cristalline ou puissante, voix qui caresse ou qui transperce. Du 4 au 19 juillet au Montreux Jazz Festival, laissez-vous séduire par les plus grandes voix d'artistes légendaires. Parmi les têtes d'affiche, Pulp, Ray, Lionel Richie, Isolt, ou encore Neil Young and the Chrome Hearts. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com. Le Grand Soir. Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Haute fréquence. Haute fréquence,
une émission d'RTS Religion.
Haute fréquence,
Gabriel de Sarzan.
Une académie de magie taoïste est lancée à Bulleh, dans le canton de Vaud. Mais qui s'y intéresse et pourquoi ?
Je suis psychothérapeute. Donc dans un premier temps, et c'est dans un but aussi d'évolution personnelle, et au-delà des 5 ans, effectivement, si je vais jusqu'aux 5 ans, de le pratiquer effectivement dans un but thérapeutique pour d'autres personnes.
Une des participantes à ce premier cours de magie taoïste auquel Samuel Soquet a assisté, on entendra le docteur Fabrice Jordan qui a lancé cette formation et on en discutera avec Emmanuel Menlein, pasteur évangélique français qui a écrit plusieurs livres sur le paranormal. Un sujet que l'on déroule dans une vingtaine de minutes. Suite à quoi nous parlerons de beauté dans les gestes du quotidien au travers de films. Mais d'abord, nous nous rendons à Zurich qui connaît un bras de fer financier autour d'une église inclusive. Un cas d'école qui nous permettra de parler de ces communautés. Vous écoutez Haute Fréquence et vous avez bien raison. Tout de suite, une réaction dans notre courrier des auditeurs. Bienvenue à vous.
Haute Fréquence.
Notre sujet sur la destruction de l'église Saint-Pédis à Vernier, dans le canton de Genève, diffusé il y a 2 semaines, a suscité encore ce commentaire.
J'ai juste été étonnée qu'aucun moment soit évoquée la valeur patrimoniale de cet objet, enfin, de l'ancienne église, et que dans la résistance des laïcs, il n'y a pas qu'une résistance, une allergie au changement, mais aussi une appréciation d'un patrimoine architectural certain et qui est encore peu reconnu, en tout cas celui des années 60-70.
Et nous attendons vos réactions au sujet de ce soir au 058 134 20 20.
Haute fréquence. La spiritualité sur les ondes.
Grégory Roth, bonsoir.
Bonsoir Gabriel.
Dans l'actualité de cette semaine, vous avez retenu la situation de la Mosaic Church de Zurich. C'est une communauté queer de la paroisse réformée de Zurich qui souhaite renforcer son offre, mais qui se heurte à des résistances financières.
Oui, et il est important de signaler que Zurich est actuellement la seule ville suisse dans laquelle une communauté LGBTQIA+ a sa propre église. Si on rebobine l'histoire, c'est en 2021 qu'émerge une paroisse dédiée à cette communauté. Et en novembre 2022, elle se donne pour nom Mosaic Church. À partir de ce moment-là, elle a une église et un service qui lui sont dédiés.
Un service, c'est-à-dire ?
Alors, service Fachstell, d'après ce que j'ai lu, c'est un bureau spécialisé qui est dirigé par un théologien de l'université de Zurich et qui répond à toutes les questions et les préoccupations queer. Et l'église est administrée par une pasteur de la paroisse réformée de Zurich qui a pris en charge cette communauté en organisant, entre autres, un culte un vendredi soir sur deux.
Et donc, l'église Mosaïque aimerait étendre ses structures. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ?
Alors, selon nos collègues alémaniques de ref.ch, la Mosaic Church, pour répondre aux critères habituels d'une paroisse, doit développer 3 axes. Un premier concerne tout ce qui est lié à l'intendance, le travail de sacristain, de concierge, la maintenance du site internet et l'administration. Le deuxième est davantage pastoral. La communauté souhaite engager un ou une diacre qui soit aussi capable de créer du contenu sur les plateformes numériques afin de rendre le message de l'église Mosaïque accessible à un large public.
Et le troisième, Grégory ?
Alors, il est plutôt liturgique celui-là. L'église queer considère sa musique indépendante et queer-friendly particulièrement importante pour ses actuels 130 membres. Il faudrait engager une personne formée à la musique qui puisse à la fois diriger le groupe musical mais aussi composer de la musique pop réformée comme une alternative, je cite, à la musique évangélique ou traditionnelle qui est souvent anti-queer.
Et combien la communauté espère-t-elle obtenir pour tout ça ?
Alors, le budget articulé se monte à 245 000 francs par an, et c'est ce montant qui devra être voté fin juin par le Parlement, donc l'organe législatif de la paroisse de Zurich, et qui suscite, m'a-t-on expliqué, un bras de fer avec la commission Vie et Structure qui dépend de ce Parlement.
Pour parler de cette situation, on accueille Joanne Charas-Sancho. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée à l'Institut Lémanique de théologie pratique. Vous avez travaillé comme diacre à Zurich et vous êtes actuellement pasteur suffragante sur Vaud. Alors, est-ce qu'une église dédiée à la communauté queer, ça vous étonne ?
Absolument pas. Depuis très longtemps maintenant, depuis une bonne trentaine d'années, des études bien référencées de différentes églises et de différents milieux dans le monde montrent combien il est important de proposer des projets qui soient adéquats pour les différentes tranches d'âge, mais aussi les différentes sociologies. Et dans une société fragmentée qui est de plus en plus dispersée, l'Église a à cœur, et d'ailleurs elle a à cœur depuis 2000 ans, de s'adresser à tout un chacun.
Est-ce que c'est l'habitude dans le monde réformé d'avoir comme ça des mésententes sur le budget entre les différents organismes d'une paroisse ?
Oui, je crois que ça fait partie un petit peu de la tradition démocratique de l'Église de Zurich, qui a un parlement et un fonctionnement synodal bien particulier, que de se poser des questions mutuellement et de s'interroger sur l'usage de l'argent qui, en fait, résulte de l'impôt public, des contribuables. Et donc, finalement, je trouve ça assez sain qu'on puisse avoir des discussions et des débats autour de l'usage de cet argent.
Mais la paroisse en question, elle est dans la vieille ville de Zurich, dans le Kreis Eins, et c'est pourtant une paroisse riche, non ?
Effectivement, les paroisses zurichoises ne sont pas connues pour leur manque de moyens. Et on peut se demander, puisqu'il y a 130 personnes, quelles seraient les autres raisons qui motiveraient en fait cette sorte de timidité ou ce recul.
On comprend bien que c'est très compliqué, les différentes couches, différentes strates, l'organisation de l'église de Zurich. Mais en lisant l'article de nos collègues alémaniques, on pourrait avoir l'impression que cette réticence, elle serait liée à l'identité de cette église mosaïque.
Dans mon expérience pastorale, tout projet un peu nouveau et qui touche un public dont on n'a pas l'habitude finalement qu'il soit là dans nos églises, interroge et pose question. Et c'est là que c'est important pour les ministres, les personnes en charge de ces ministères-là, d'être des personnes de dialogue et puis qui permettent aussi aux nouvelles personnes fraîchement arrivées de se faire entendre et de parler de leurs projets, de ces projets qu'ils et elles portent dans l'église. C'est incroyable combien, lorsqu'on visite des endroits, on découvre des choses qui, sur le moment, ont pu surprendre, voire déranger. Je pense notamment à un vitrail offert par des jeunes protestants à Gingin dans les années 60 ou 70. Et je sais qu'il y a eu toute une histoire autour de ce vitrail. Pourquoi est-ce que des jeunes voudraient un vitrail dans l'église? Et puis maintenant, tout le monde en est très fier.
Donc dans le canton de Vaud, Gingin.
Tout à fait.
D'après ce qu'on a pu lire, il existe une théologie queer spécifique. Ça veut dire quoi en quelques mots?
Alors moi, je me réfère à celle qui est une référence en théologie queer, qui est Marcella Altos-Reid, qui a écrit le livre « Théologie indécente », qui est finalement le livre ressource, toujours théologiquement. Ce que nous enseigne Marcella, c'est que pendant longtemps, la théologie hégémonique a fait peu de place aux situations particulières et puis aux personnes qui n'avaient pas finalement accès au savoir théologique ou à la façon d'articuler la théologie pour être entendue, pour être diffusée, pour être discutée. Et la théologie queer, depuis le départ, étant issue finalement des théologies de la libération, fait une place toute particulière au vécu et aux expériences des personnes qu'on a pu longtemps marginaliser ou à qui on n'a pas donné de place dans l'Église.
Mais Joan Chara Sancho, dans le monde réformé, les paroisses sont plutôt accueillantes, y compris pour des personnes queer, pour des pasteurs queer même. Dès lors, établir ce type de paroisse, est-ce que ça ne risque pas de créer des ghettos ?
La façon dont on a appelé ces paroisses pendant longtemps, c'était des paroisses affinitaires. Par exemple, des paroisses où on faisait un accueil spécifique aux motards, à celles et ceux qui aiment la musique classique, des paroisses qui ont des espaces spécialement prévus pour les familles et les enfants. L'idée, c'est de se dire que nos moyens humains, finalement, et pastoraux, sont parfois un peu limités et on n'arrive pas, dans une même communauté, à faire toujours place aux besoins de gens qui ont des goûts aussi éloignés que des parents d'enfants en bas âge qui ont surtout besoin de rencontres et de convivialité et des personnes qui ont besoin du calme pour pouvoir écouter de la musique de Bach. Donc voilà, l'idée des paroisses affinitaires, des paroisses un peu colorées, c'est de se donner du temps et de l'espace pour accueillir correctement des personnes qui ont d'autres codes culturels, mais pas les accueillir pour qu'elles restent là, les accueillir pour qu'elles se sentent assez à l'aise pour ensuite aller explorer les nombreuses possibilités qu'offrent nos églises qui effectivement sont globalement accueillantes.
Donc vous parlez plutôt de paroisse relais ou paroisse refuge. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres projets de ce type pour les personnes queer, que ce soit en Suisse romande aussi ou en France ?
Alors oui, j'ai participé, j'ai cofondé l'antenne inclusive à Strasbourg qui est hébergée au sein de la paroisse luthérienne Saint-Guillaume qui a hissé l'année dernière très fièrement le drapeau arc-en-ciel à deux endroits de la façade de cette église. Il y a l'antenne LGBT à Genève. Il y a aussi le projet dans l'église réformée vaudoise qui s'appelle À bras ouverts, qui est en fait un projet porté par l'église réformée vaudoise pour encourager des projets à l'intérieur même des différentes communautés, des différentes paroisses de cette église, pour et par les personnes queer, et puis aussi des projets qui soient des projets autour d'une perspective d'une conjugalité ouverte et généreuse, de comprendre les situations de chacun et chacune dans sa vie conjugale.
Vous parlez de conjugalité. Est-ce que depuis que le mariage pour tous a été légalisé en Suisse, c'était en juillet 2022, est-ce qu'il y a des avancées aussi dans notamment les célébrations de mariage dans les paroisses? Est-ce qu'on sent une évolution de manière générale?
Il y a une très très grande évolution à ce niveau-là. Moi, je n'aurais jamais cru en 10 ans que ça aille si vite. Je crois que nos églises ont finalement, après une période un petit peu difficile de mise en route, mais nos églises ont trouvé vraiment des voies d'accueil et de collaboration entre des communautés qui étaient davantage prêtes que d'autres pour être des lieux relais, comme vous dites, des lieux où accueillir toutes les situations de chacun, chacune, et permettre des accompagnements de couple en vue de bénédictions d'union qui sont tous les ans un tout petit peu plus nombreux. C'est timide, mais très prometteur.
Eh bien, merci beaucoup, Joan Charas Sancho, d'avoir été quelques minutes avec nous dans Haute Fréquence. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée à l'Institut Lémanique de Théologie Pratique et pasteur suffragante actuellement dans le canton de Vaud. Très belle suite de soirée, merci.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Et l'on peut annoncer que la prochaine édition du journal Réformé a un dossier spécial sur la théologie queer, journal qui sort mercredi prochain.
Mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant au bout du navire. Je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières.
Infotrafic RTS.
Quelle que soit votre direction, soyez prudent si vous circulez sur l'autoroute Vevey-Martigny, car on nous signale des piétons sur la chaussée entre Villeneuve et Aigle. Je répète, quelle que soit votre direction, soyez prudent si vous circulez sur l'autoroute Vevey-Martigny, car on nous signale des piétons sur la chaussée entre Villeneuve et Aigle.
Qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants, se mentir à s'arracher les dents, il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants, c'est pas que je voulais partir mais c'est violent, je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr.
Amour censure, une chanson de Hoshi qui est un appel à la tolérance et à la sincérité des sentiments.
Haute fréquence.
Haute fréquence.
Le souffle des religions.
Le souffle des religions.
Une académie de magie taoïste a été créée dans le canton de Vaud. Samuel Soquet, bonsoir.
Bonsoir Gabriel.
Samuel, vous avez assisté au premier cours. Alors en Occident, la magie évoque surtout des spectacles de prestidigitation. Et dans la tradition taoïste, la magie, ça ressemble à quoi?
C'est vrai qu'en Occident, on connaît mieux le tai chi, le qigong, le feng shui ou l'acupuncture. Toutes ces pratiques s'inscrivent dans le taoïsme, mais dans cette tradition chinoise millénaire, on trouve aussi l'étude des mystères, ce qui a été traduit pour ce cours par le terme de magie taoïste, et qui se transmet de maître à élève depuis 2000 ans.
Et dans cette académie de magie taoïste en plein Jura vaudois, qui est le maître et qui sont les élèves?
Les élèves sont des hommes et des femmes de toute la francophonie. Il y avait à peu près 200 personnes qui assistent à ce cours donné en ligne. Il y a aussi quelques élèves qui assistent en présentiel à cette première leçon. J'ai pu les rencontrer sur place au centre Mingshan à Bulé, un village de près de 1200 mètres d'altitude au-dessus du lac de Neuchâtel.
Et le maître?
Le maître, c'est le docteur Fabrice Jordan, qui dans sa tradition porte le nom de maître Dan Mingguang. Il est médecin FMH, mais a remis sa consultation de premier recours et de médecine traditionnelle chinoise. Nommé prêtre taoïste l'été dernier, il se consacre désormais à la gestion de Mingshan, qui se revendique le plus grand centre taoïste d'Europe. C'est un bâtiment contemporain, agencé autour d'un patio, avec des salles de formation, restaurants, chambres pour loger une trentaine de stagiaires. Derrière deux immenses portes en bois se trouve un temple taoïste. Et c'est lui, Fabrice Jordan, qui a créé ce centre en 2019 grâce à des fonds privés locaux, il n'y a pas de fonds chinois, et avec le soutien du canton et de la Confédération. Et c'est lui aussi qui, le mois dernier, a lancé cette académie de magie taoïste.
Alors vous le rencontrez avant son cours et il vous fait la visite des lieux.
Alors là, on sort de votre bureau, puis on arrive sur un patio qui, autour duquel donne le centre Mingshan, avec deux cerisiers du Japon, c'est juste ?
Ouais, tout à fait, ouais, qui sont justement en fleurs. Là, maintenant, c'est la bonne période.
Et là, on rentre par deux grandes portes rouges sur une salle rectangle avec trois grandes statues qui sont donc ces immortels qu'on retrouve aussi dans votre bureau en plus petit. Il y a beaucoup beaucoup de dieux dans le taoïsme, qui est un polythéisme.
Ah ouais, il y en a des... C'est toute une bureaucratie céleste, en fait. C'est très hiérarchisé, c'est comme la Chine, en fait. Et effectivement, chacun est responsable d'un département, etc. Donc, les trois Sanxing sont vraiment tout en haut des départements, on pourrait dire. Ils sont dans le...
Les grands chefs.
C'est les grands chefs, ouais.
C'est une formation dont vous attendez quoi concrètement ?
Moi, dans un premier temps, je suis inscrite sur le premier module et c'est vraiment d'asseoir ma pratique, vraiment trouver un cadre en fait à ma pratique.
Est-ce que vous êtes déjà dans une pratique d'orientation taoïste ?
Oui, j'ai commencé il y a 4 ans avec une autre école et c'était plus, peut-être plus axé sur les arts corporels. Et je trouve ici qu'il y a un cadre qui me rassure peut-être et puis un maître aussi et ça, c'est pas partout. Donc voilà.
Ça peut être thérapeutique, mais pour ma propre évolution en fait, pour tout ce que je vais pouvoir finalement retransmettre, enfin je ne sais pas si on peut dire retransmettre, mais peut-être rayonner du mieux possible, c'est ça.
Il y a une visée aussi thérapeutique de cette formation, en tout cas pour les personnes qui vont au bout des 5 ans. Est-ce que vous êtes les unes et les autres dans une démarche déjà thérapeutique en tant que praticienne ?
Oui. Oui, je suis psychothérapeute. Donc dans un premier temps, c'est dans un but aussi d'évolution personnelle. Et au-delà des 5 ans, effectivement, si je vais jusqu'aux 5 ans, de le pratiquer effectivement dans un but thérapeutique pour d'autres personnes. Ouais.
Je suis dans les transports. Je suis contrôleuse dans les trains. Enfin, j'exerce le métier de contrôleur dans les trains plutôt. Ça m'aidera effectivement vis-à-vis de toutes les situations que je peux rencontrer au cours d'un voyage. Pacifier certaines choses à certains moments. Voilà. Mais je le fais surtout pour moi.
Je suis kinésiologue. C'est plutôt pour m'ancrer, moi, en fait. Quand on accompagne, il faut aussi être bien, bien aligné, parce que ça aide obligatoirement les gens qui viennent en accompagnement.
Je suis enseignante de Qigong, mais pour moi, tout va ensemble. Je commence par moi, il y a déjà beaucoup de jobs, et puis après, on verra. Mais les personnes avec lesquelles je pratique, par contre, j'ai commencé à les initier, mais à leur demande aussi, sûrement par rapport à des choses que j'exprimais, justement d'une partie plutôt physique, d'aller vers quelque chose d'autre qui est de l'ordre thérapeutique, même si je le nomme pas comme ça. Et puis ensuite, bien sûr, que ça va au-delà, hein. Ça touche le spirituel et heureusement.
Le but principal, c'est de développer ce qu'on appelle le fa. Je vais vous mettre l'idéogramme chinois. Je vais peut-être le mettre en noir. Voilà. Fa, en général, ça veut dire la loi. Donc, développer le fa, c'est se remettre dans un flux qui nous permet de bénéficier des lois naturelles, en fait. Dans la loi aussi, dans le fa qu'on développe, il y a une forme d'autorité spirituelle qui va aussi décréter que, par exemple, la procédure en cours est authentique et validée par les dieux, si vous voulez. Donc, pour développer une forme d'efficacité, il va falloir qu'on développe une forme d'ordre, de cohérence interne pour aligner nos différents niveaux, notre vitalité, notre cœur, notre esprit, etc., pour qu'ils travaillent de concert dans la même direction avec une visée ou quelque chose qui apporte de la clarté dans l'objectif qu'on veut atteindre. Parce que oui, on pourra toujours dire que ça ressemble à du matérialisme spirituel, mais on essaye d'obtenir un résultat, en général, avec la magie taoïste. Et est-ce que c'est légitime ? Ben, si on est honnête en tant qu'être humain, on sait bien que chacune d'entre nous, on essaye de changer quand on peut les conditions qui ne nous conviennent pas pour aller vers une vie qui nous semble un peu meilleure. Hein. Si vous vivez avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ben, c'est bien joli de dire oui, 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 mais à un moment donné, il va falloir trouver le nom sacré aussi qui vous permet de vous respecter, de reconnecter avec votre dignité intrinsèque et puis de dire jusque-là et pas plus loin. Donc le développement de la magie en général, c'est le développement du non sacré. On ne peut pas dire non si on n'a pas un certain pouvoir. Et une bonne méthodologie taoïste, c'est une méthodologie qui n'exclut pas des moyens habiles que vous avez à disposition dans votre environnement occidentalisé. Donc s'il vous plaît, le fait d'être dans un cours de magie taoïste ne vous dispense pas d'être raisonnable. Ça ne remplace pas un traitement médical en cours, bien conduit, etc. Et vous ne modifiez rien à ce que vous faites d'habitude sans l'avis des personnes qui vous suivent. Voilà, donc ce type de pratique, c'est avant tout une pratique sonore, vibratoire, et il faut apprendre à sentir. Donc je vais vous le lire. Ling Pao Tianzun. Donc là, on vient directement s'adresser à Ling Pao. Ling Pao Tianzun An Wei Shen Xing Ti Zhe Hun Po Wu Zhang Xuan Ming Jing Long Bai Hu Tui Zhang Fen Yun Zhu Chui Xuan Wu She Wei Wu Zhen. Et vous voyez ça, là, ces quatre colonnes, on les répète en général 7 fois de suite. Et quand on a fini, à la fin de la 7e fois, on rajoute cette phrase qui est Ji Ji Ru Lu Ling. Ça, c'était l'ordre impérial. C'est qu'il en soit ainsi, Jijiru Ling. Donc c'est une formule de pouvoir. C'est exactement le ainsi soit-il chrétien en fait. Vous voyez aussi ici l'aspect Yang, c'est que quand on finit Jijiru Ling, à ce moment-là, il ne faut aucun doute dans ce que vous émettez. Et il y a quelque chose de l'ordre du son qui vient impacter l'eau et qui produit un effet. Alors je sais que c'est irrationnel, mais on a eu tellement de retours complètement fous en fait. Sur certains effets en fait, de cette magie, que ça serait irrationnel de douter de son efficacité. Vous prenez un récipient comme ça qui doit être opaque, vous mettez de l'eau, de l'autre côté vous prenez le mudra de l'épée, vous allez réciter d'abord 7 fois le mantra, etc. avant le Jiji ou le Ling. Vous allez dessiner dans l'eau, à distance, comme ça, le mot fleur, on l'appelle ça comme ça, les mots fleurs ou les mots secrets de Ling Pao Tianzun. Et vous dessinez ça lentement sur l'eau que vous avez devant vous, ici. Et quand vous avez fini ça, à la fin, vous faites Jiji ou le Ling et vous frappez le bord du bol, une fois. Et ensuite, vous buvez l'eau en 3 fois 3 gorgées. Donc voilà, 9 fois. Et ensuite, vous méditez un petit moment là-dessus. Alors, dans le christianisme, on dirait que c'est une eau bénite, en fait. C'est un procédé qui change la qualité de l'eau et ensuite on va la laisser travailler. Ok ? Donc voilà votre pratique pour cette semaine. Mantra de purification du corps. Et la semaine prochaine, vous me dites ce qui s'est passé cette semaine. D'accord ?
Le docteur Fabrice Jordan, qui donnait le premier cours de son académie de magie taoïste. Pour réagir à votre reportage, Samuel Soquet, on accueille en duplex depuis les studios de Ici Alsace, Emmanuel Menlein. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pasteur évangélique itinérant, vous êtes spécialiste du paranormal sur lequel vous avez écrit plusieurs ouvrages. Que vous inspire à chaud ce reportage dans cette académie de magie taoïste, Emmanuel Menlein?
Eh bien, écoutez, j'essaye un petit peu de me représenter la Suisse que je connais bien, dans laquelle je viens de temps en temps, et avec ses belles prairies, et puis voilà, cette académie de magie dans un pays avec tout un arrière-plan chrétien, et je me dis, ben là, il y a quelque chose qui vraiment détonne. Et puis en même temps, au travers de ce reportage, j'entends aussi des hommes et des femmes, surtout des femmes, qui sont en recherche, qui cherchent un petit peu à être apaisées, qui cherchent à apporter quelque chose un petit peu dans leur environnement. Et puis je me dis aussi que dans tout ce qui a été dit, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, en tout cas dans un pays avec tout un arrière-plan chrétien. Voilà.
Il y a une formule qui résonne à l'ouïe des chrétiens, c'est ce « ainsi soit-il » taoïste. Est-ce que ça vous parle, Emmanuel Menlein?
Alors le mot en tant que tel me parle, c'est la traduction de Amen, qui est un mot qu'on retrouve souvent dans la Bible, qui veut dire « ainsi soit-il », mais j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout compris comme il est compris dans la Bible. Amen vient d'une racine hébraïque qui signifie « aman », et cette racine signifie simplement ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qui est permanent, et autrement dit, quand on dit « amen » dans la foi chrétienne, on s'appuie sur Dieu, hein, celui qui est sûr, celui qui est permanent. Maintenant, celui qui nous donne une assise sur qui on peut compter, eh bien c'est Dieu. Et donc, quelque part, on fait confiance à Dieu quand on dit « Amen ». Donc, c'est pas de l'ordre du magique. On s'attend, on fait confiance à Dieu parce qu'il est permanent et parce qu'il est fiable. Mmh. Voilà.
Dans ce cours, Fabrice Jordan, à un moment donné, fait le moudra de l'épée. C'est un signe de la main où les doigts sont repliés, sauf l'index et le majeur qui frappent le bord du récipient en invoquant une divinité. Comment est-ce que vous réagissez à cette fabrication d'eau bénite ?
Alors moi ça me surprend un petit peu parce que voilà, je suis du côté protestant évangélique, on est un petit peu hostile à tous ces rites. Alors j'entends bien, hein, dans la foi chrétienne vous avez des rites, vous avez le baptême par exemple, etc. Mais ces rites n'ont pas de pouvoir en tant que tel. Celui qui a le pouvoir, celui qui a la puissance, c'est Dieu. Et donc en entendant un petit peu ce qu'il a fait tout à l'heure justement par rapport à ce rite, eh bien on retrouve exactement les principes de la magie, voilà, qui consiste à manipuler des forces, des puissances, des énergies, etc., dans le but d'obtenir quelque chose, alors que dans la foi chrétienne, ce principe-là, on ne le retrouve pas, on retrouve le principe de la confiance en Dieu et dans le Christ.
Samuel Soquet, cette histoire de magie, est-ce que c'est vraiment une tradition taoïste ou est-ce que c'est plus un argument marketing pour vendre un stage de développement personnel ?
J'ai posé la question à l'historien des religions Frédéric Richard. Pour ce chercheur qui est spécialiste du bouddhisme et des religions orientales, ce terme de magie intrigue en Occident parce qu'on envisage le taoïsme comme une philosophie. Mais il y a aussi toute une dimension pratique, quasiment une médecine alternative, dit-il, qui repose sur l'idée que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Agir sur l'esprit permet donc d'agir sur le corps et vice-versa.
La magie qui vise un résultat thérapeutique, en somme. Emmanuel Menlein, vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, c'est l'objectif de la magie. Et au début du reportage, le monsieur, le maître, l'a bien expliqué. Il a bien expliqué que l'objectif, ben voilà, c'était d'obtenir un résultat. Alors, on pourrait se poser la question, qu'en est-il de la foi ? Comme j'ai dit tout à l'heure, la foi est de l'ordre de la confiance. On s'attend à Dieu et on croit que Dieu intervient aussi, hein, qu'il agit, mais on ne cherche pas à le manipuler au travers de rites ou d'autres choses, quoi.
Une autre chose intéressante que m'a dite le chercheur Frédéric Richard, c'est que les personnes qui se tournent tourne vers ces pratiques sont parfois méfiantes vis-à-vis de la médecine occidentale. Et puisque ces traditions orientales sont millénaires, elles pensent qu'elles vont tout résoudre. Bon, en réalité, ce sont des approches complémentaires qui remplacent évidemment pas un suivi médical. Et ils remarquent que ce même manque d'esprit critique peut aussi avoir lieu dans la relation de maître à disciple qui est incontournable dans ces traditions de transmission orale. Mais chez certains élèves naïfs, ça peut conduire à un manque de discernement. D'ailleurs, ils conseillent de garder un esprit critique et de faire preuve de bon sens quant aux attentes.
Alors, je pense, Emmanuel Menlein, que vous êtes d'accord avec ça, mais vous avez entendu dans le reportage que le son qui impacte l'eau produit un effet. Là, on est vraiment dans la formule magique. Vous y croyez, vous, à ces forces invisibles ?
Oui, j'y crois dans le sens, non pas qu'elles sont un objet de foi ou de confiance pour moi, mais je crois qu'elles existent, effectivement, parce que selon la lecture biblique, on sait qu'il y a toutes sortes de puissances spirituelles qui existent, vous avez des anges qui existent, vous avez des anges déchus aussi qui existent, et nous savons que dans les prérogatives de ces puissances célestes, elles sont capables d'agir sur l'être humain, elles sont capables d'agir sur la matière, comme on le voit par exemple dans la Bible. Donc oui, effectivement, je crois que c'est possible. Je crois aussi que parfois il s'agit tout simplement de supercherie. Parfois aussi on va essayer de se persuader de quelque chose alors qu'il n'y a rien. Mais je crois aussi, parce que c'est ce que j'ai constaté dans mon ministère en accompagnant des personnes qui ont évolué dans le paranormal, que parfois il y a vraiment des choses d'un point de vue spirituel qui se passent et qui ne sont pas anodines, en tout cas pour l'être humain.
On entend Fabrice Jordan dire que le développement de la magie en général, c'est le développement du non sacré. Il faudrait savoir dire non pour reprendre un pouvoir sur sa vie ou sur celle des autres. Ça vous inspire quoi, Emmanuel Menlein?
Alors, j'ai pas très bien compris cette histoire de non sacré. Est-ce que vous pourriez peut-être l'expliciter un petit peu davantage?
Oui, d'après ce que je comprends, c'est la capacité de pouvoir reprendre la main sur sa vie et les événements de la vie qui ne nous conviennent pas et de, du coup, dire non à quelque chose via notamment des rituels magiques qui permettent de mettre un stop à quelque chose qui est néfaste pour
nous. Alors sur le principe de dire non et de reprendre quelque part un peu le pouvoir sur sa vie et de pas se laisser envahir par des sollicitations ni même par d'autres choses, oui, sur ce principe-là, je suis d'accord. Maintenant, là où je suis pas d'accord, moi, en tant que pasteur et que chrétien d'abord, c'est d'utiliser la magie pour cela. Je pense que parfois, il suffit de faire un travail personnel sur soi, comme certains psychologues nous le proposent. Et puis, je pense aussi que la foi chrétienne peut nous aider, tout simplement, à reprendre aussi confiance en nous et savoir dire oui à ce qui est bon, et puis savoir dire non aussi à parfois ce qui est mauvais pour nous et ce qui vient aussi nous empêcher d'avoir du temps pour soi-même ou du temps pour les autres.
Infotrafic RTS.
Prudence sur l'autoroute Yverdon-Lausanne, car on nous signale des objets sur la chaussée entre l'échangeur Desserpité et Chavornay en direction de Lausanne. Sur la 9, Martigny-Lausanne, un retard d'une heure est signalé entre Aigle et Vevey en direction de Lausanne. Et sur la 1, Genève-Lausanne, il faut prévoir une vingtaine de minutes de retard entre le Grand Saconnet et Nyon en direction de Lausanne.
Vous écoutez Haute Fréquence et nous sommes avec vous, Samuel Socquet, dans un centre taoïste sur le balcon du Jura. Un centre qui offre des cours dits de magie avec plusieurs rituels qui sont enseignés. On entendait tout à l'heure Emmanuel Menlein aussi nous accompagner dans cette découverte. Quand on parle de rituels taoïstes, on parle de quoi ?
C'est ce que j'ai demandé à Fabrice Jordan, le médecin qui donne ses cours. J'ai demandé en quoi consiste exactement la magie taoïste.
Alors la magie taoïste, c'est le terme qu'on a choisi pour le français en fait, mais dans la tradition ça s'appelle le shen shue, donc c'est-à-dire les études du mystère. C'est le versant, on pourrait dire yang, un peu plus rugueux si j'ose dire, un peu plus chamanique, qui vise à changer le réel. Et donc en fait il nous faut les deux versants, un versant d'acceptation et un versant qui vise à changer les choses qui nous conviennent pas. Et on voit très peu cet aspect-là en Occident, donc c'est ça qu'on essaie d'amener dans cette académie de magie taoïste.
On a quasiment tous en tête la baguette magique de Harry Potter, les cours de magie qui suivent dans l'école de Poudlard. Ici, c'est quoi la différence avec ça, Fabrice Jordan?
Bah, disons qu'on est plus proche de Poudlard que de l'illusionnisme, on pourrait dire quand même, parce que si on regarde un peu ce qui se passe dans Harry Potter, il s'amuse avec le fond du réel, quoi, d'une certaine manière. En fait, la magie va utiliser les forces archétypales de la nature pour les utiliser à son propre service ou au service des autres. Mais l'idée générale reste quand même de remettre, grâce à cette énergie supplémentaire, les gens dans un flux naturel, en fait.
Ça me fait un petit peu penser à ce que vous expliquez sur votre site de présentation de cette Académie de magie. Vous dites qu'il s'agit d'utiliser et d'explorer les forces qui tissent la réalité. Vous, vous êtes médecin FMH, vous êtes donc plutôt un scientifique. Comment ça se fait que vous ne considériez pas ces forces invisibles, relevant plutôt du surnaturel, donc de croyances irrationnelles, mais que vous leur accordiez foi?
Vous êtes en train de dire que je suis schizophrène, c'est ça? Non, mais en fait, la question, c'est effectivement, ça vient questionner la rationalité. Et il y a une forme de rationalité aujourd'hui qui touche, selon moi, une forme de rationalisme, c'est-à-dire que c'est qui peut devenir aussi extrême que n'importe quel isme au fond. Et ce qui est intéressant dans la science moderne, c'est qu'on pourrait dire que, alors oui, je suis médecin, les sciences biologiques de ce point de vue-là ont un peu de retard, peut-être une centaine d'années de retard sur les sciences physiques, parce que, bah, comme vous le savez, depuis 105 ans, 110 ans, la physique quantique a révolutionné la manière de concevoir le fond du fond du réel de toute façon de manière assez radicale en fait.
Vous avez dit que cette approche elle est pragmatique, c'est-à-dire qu'on se demande pas si c'est vrai, mais on essaie de voir si ça marche ou si ça marche pas.
Oui, ben exactement, mais en fait ça questionne la question du vrai. Nous on a une définition du vrai en Occident qui est basée sur la forme, le fait que ça soit tangible, touchable, etc. En Orient c'est pas du tout la même vision de du vrai. Le vrai c'est défini comme ce qui fonctionne, ce qui marche en fait. Donc à partir du moment où ça marche, ils vont considérer que c'est vrai. Toutes les magies du monde sont construites sur cette définition de la vérité.
Emmanuel Mennlein, cette idée que ce qui est vrai, c'est ce qui marche, c'est un peu comme dans la foi évangélique qui repose aussi sur des témoignages de transformation, des promesses de guérison au nom de Jésus. Est-ce que finalement ces croyances ne vous rapprochent pas un peu de la magie taoïste ?
Alors, oui, c'est intéressant votre question. Hein, j'aime bien cette notion de vrai. Bon, elle est très pragmatique, quoi. Donc, ça marche. Donc, pour nous, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que dans le milieu évangélique, beaucoup insistent sur la guérison, etc., sur des témoignages de vie transformée. Donc, le discours, ça va être de dire, comme vous soulignez, eh bien, regardez, c'est vrai. Mais en réalité, la foi chrétienne, c'est beaucoup plus que cela. Hein, la foi chrétienne, on pense qu'elle est objective et elle repose pas simplement sur une question de ressenti ou de vécu personnel, parce que ce vécu personnel, eh bien, je veux dire, dans le taoïsme, j'imagine qu'il y a des gens aussi qui vivent des transformations, il y a aussi des gens qui vivent des guérisons. Maintenant, quelles sont les puissances ou qu'est-ce qui permet de vivre ça, c'est une autre question. Donc nous, en tant que chrétiens, généralement, on fait reposer notre foi d'abord sur la Bible, sur ce que Jésus, surtout, nous a révélé de Dieu. Donc c'est déjà sur la Bible, si vous voulez, que notre foi, elle repose, et non pas simplement sur le vécu et sur le ressenti, parce que ça, c'est, on peut retrouver ça partout, hein. Quand je côtoie des médiums ou quand je côtoie des guérisseurs, etc., eh ben, ils me disent, moi aussi, je vis des choses, moi aussi, je vois des choses au niveau spirituel. Mais la question, c'est de savoir, mais quelle est la source qui est derrière et sur quoi ça repose? Or, pour moi, la question de la source, du fondement sur quoi repose toute la croyance, la foi, est beaucoup plus importante que les effets en tant que tels.
On peut, selon vous, Emmanuel Mennlein, être chrétien et s'adonner à la magie?
Alors, c'est quelque chose qui est totalement inconciliable, hein, avec la foi chrétienne. Vous avez plusieurs textes dans l'Ancien Testament où tout ce qui est magie est condamné à plusieurs reprises. On retrouve aussi ces textes dans le Nouveau Testament. Et il y a certainement plusieurs raisons à cela. Parmi les raisons, on peut retrouver le fait que derrière la magie, quelque part, au lieu de faire confiance à Dieu, on va faire confiance à des puissances spirituelles, obscures, qui en réalité, comme la Bible décrit, sont des puissances qui sont hostiles au Christ. Et donc ça, c'est le principal problème qu'on va retrouver dans la magie. Et donc le grand truc, si vous voulez, c'est que Dieu oppose au principe de la magie la confiance en Dieu. Et puis surtout, de pas vouloir chercher à influencer, à changer des événements dans sa vie. C'est un petit peu ce qu'on veut faire dans la magie. On veut essayer d'améliorer le quotidien, de changer des choses, comme ça nous a été dit tout à l'heure. Alors ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on ne cherche pas à changer les choses. Mais dans ce processus, on décide de faire confiance à Dieu et puis d'agir aussi avec la force qu'il nous donne et de voir ce que nous, à notre niveau, on peut mettre en place et on peut changer. On ne cherche pas à influencer des forces ou des puissances mystérieuses, mais on croit que Dieu, de manière surnaturelle, nous accompagne et nous soutient dans notre vie.
Alors, être chrétien et s'adonner à la magie, on écoutera à ce propos Fabrice Jordan tout à l'heure. Samuel Soquet, juste une question, combien ça coûte cette formation ?
Environ 2700 francs par an, on dépasse donc les 13 000 francs pour les 5 ans. Pour une heure de cours donné chaque semaine en ligne, 3 jours en présentiel par an et ces enseignements privés. Quand j'ai fait remarquer à Fabrice Jordan que c'était relativement cher, il m'a dit qu'il s'était basé sur le prix moyen des cours de médecine chinoise, notamment en France. J'ai voulu aussi savoir si on gagnait mieux sa vie comme médecin ou comme prêtre taoïste, et il m'a dit que depuis qu'il avait remis son cabinet, ses revenus avaient diminué de 20 à 30%.
Et on vous retrouve maintenant, Samuel Socquet, dans la suite de votre échange avec Fabrice Jordan.
L'idée d'engagement, c'est un terme qui revient assez souvent, et je me demandais si cet engagement pouvait faire l'économie d'un engagement spirituel dans la voie taoïste. Est-ce que, je sais pas, moi je suis musulman, pratiquant, juif, croyant, chrétien, que sais-je. J'imagine que si on est non-croyant, c'est plus facile, mais pour quelqu'un qui a déjà une pratique, une foi, est-ce que c'est compliqué d'allier cette foi avec quelque chose qui n'a rien à voir avec sa foi et de ne pas embrasser la foi taoïste en même temps que la pratique de la magie taoïste?
Oui, bah c'est une excellente question. La chose, c'est que le taoïsme va rien vous demander, en fait. On demande pas d'exclusivité. Il faut savoir aussi qu'en Asie, il n'y a pas d'exclusivité religieuse. Les gens, ils vont chez les taoïstes le lundi, chez les bouddhistes le mercredi et chez les musulmans le vendredi. Ça va dépendre un peu de ce dont ils ont besoin. De mon côté, je vois pas d'inconvénient à ce que quelqu'un ait Jésus-Christ, la Vierge Marie et Lao Tse ou un des Sanching sur son autel, en fait. Mais la question, c'est de savoir comment la personne va pouvoir créer une cohérence spirituelle autour de ça. Par exemple, il y a des procédures qui font appel à Guan Yin, qui est une divinité assez connue bouddhiste, mais qu'on retrouve beaucoup dans le taoïsme aussi. Mais quelque part, Marie, c'est l'équivalent de Guan Yin dans le christianisme. Donc on pourrait tout à fait imaginer que quelqu'un qui est occidental décide plutôt de travailler avec Marie plutôt qu'avec Guan Yin si ça crée une plus grande congruence interne. Parce qu'en fait, l'efficacité va dépendre de la congruence globale de la méthode.
Qu'est-ce que vous appelez la congruence ?
Ben, ça veut dire que quand vous faites quelque chose, il faut que vos cellules et que vous-même y croyez. Si vous êtes en désaccord interne ou vous êtes dans une forme de superficialité, une sorte de vernis taoïste par-dessus des croyances plus fondamentales qui vous tirent ailleurs, ben votre corps, votre entièreté, l'intégrité de ce que vous êtes, nous on appelle ça les trois tantiens, c'est-à-dire la vitalité, le cœur, l'esprit, ne sont pas complètement alignés. Et de fait, c'est un peu comme si vous poussez avec en ayant des pertes articulaires dans le genou, dans la hanche, dans le coude, par exemple, ben la poussée finale, elle n'est pas très forte. Tandis que si vous avez une poussée qui est congruente avec toutes les articulations qui travaillent dans le même sens, on a une poussée finale qui est très forte.
Emmanuel Menlein, la congruence, est-ce que ça vous parle en tant que chrétien évangélique ?
Oui, ça nous parle aussi. Hein. Ce qu'on croit normalement en tant que chrétien, ça va nous impacter dans notre vie, dans notre travail, ça va nous impacter dans notre loisir, dans notre manière de gérer notre vie, dans notre conception de la vie, dans les engagements que nous allons prendre, dans des associations, etc. Et donc, plus il va y avoir de congruence, de cohérence interne, et mieux on va se sentir. Donc, ce principe, effectivement, de congruence me parle également, même si les fondements sur lesquels ça repose seront différents.
Je me demandais comment vous réagissiez à une spiritualité qui allie les divinités taoïstes et la Vierge Marie. Alors, en tant que pasteur évangélique, vous ne l'avez pas forcément dans votre panthéon personnel, mais quand même, cette alliance-là, vous en pensez quoi ?
Ben écoutez, en écoutant ça, ça paraît vraiment très sympathique et très cool. Et je me suis dit, ben voilà aussi pourquoi ça plaît à nos contemporains, parce qu'on aime bien un petit peu se faire sa propre cuisine. Et puis chacun fait un petit peu son mélange spirituel, et puis prend ce qui l'intéresse dans diverses traditions, la foi chrétienne, l'ésotérisme, le monde de la magie. Et puis on fait un petit peu sa propre mixture, et on essaye de réconcilier tout ça ensemble. Bref, c'est pas facile. Alors cette notion-là est totalement absente de la foi chrétienne, et c'est ce qui fait que parfois elle peut-être rebuter certaines personnes, dans le sens que la foi chrétienne est très exclusive. Il y a cet attachement viscéral à la personne du Christ, voilà. Et puis alors, à la fois, on voit aussi, surtout dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament avec Jésus, que Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire soit c'est lui, et lui entièrement et pleinement, soit c'est pas lui. Mais on peut pas avoir le cul entre deux chaises, on peut pas dire Dieu un petit peu et puis d'autres dieux encore une fois à côté. Alors pourquoi cet exclusivisme? Eh bien tout simplement parce qu'on pense que dans le Christ, c'est Jésus qui l'a dit lui-même, il y a tout ce qu'il faut au niveau de la spiritualité, au niveau de la foi, au niveau de la connaissance sur ce monde, la connaissance du monde spirituel, et par conséquent, une fois qu'on a trouvé le Christ, eh bien on a trouvé la source d'eau. D'ailleurs, Jésus se présente lui-même comme une source d'eau rafraîchissante, et on est rafraîchi une fois, deux fois, trois fois, chaque fois qu'on vient vers lui, on trouve ce dont on a besoin.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Menlein d'avoir été avec nous dans Haute Fréquence.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes pasteur évangélique itinérant dans la francophonie, où vous intervenez dans différentes églises. Et vous qui êtes à l'écoute, que pensez-vous de ces cours que l'on appelle Étude des mystères ou magie taoïste? Nous attendons vos réactions au 058 134 20 20.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. Sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine. Okay. Sunny,
Sunny, cette reprise de Bobby Hebb interprétée par Ayo sur RTS Première.
Haute fréquence, quand le ciel se raconte.
La 10e édition du festival cinématographique genevois Il est une fois a choisi la beauté comme thème de ses projections le mois dernier. Instigateur de ses rendez-vous annuels, Geoffroy de Clavière nous parle ce soir de la beauté au travers des gestes du quotidien, au moyen surtout d'un film qu'il a particulièrement aimé.
Le beau est partout,
écrivait Fernand Léger, dans les gestes du quotidien tout d'abord. Ah oui, déceler dans le quotidien ce qui est de l'ordre du beau. Quelle aventure! Comme chez Hirayama, le personnage de Perfect Days de Wim Wenders. Avare de paroles, ce nettoyeur de toilettes à Tokyo est constamment émerveillé par un rayon de lumière entre les feuilles d'un arbre. On ne parle même pas de la beauté d'un coucher de soleil incandescent, non, juste d'un tremblement lumineux qui joue avec les branches et le vent. Sa vie n'est qu'une simple routine qui se répète jour après jour et dont il semble tirer une satisfaction béate. Dès le matin, au réveil, son rituel est toujours le même. Plier son futon, humidifier les plantes qu'il n'achète pas mais déterre en douceur dans un parc à l'ombre d'un arbre, lever les yeux vers le ciel et esquisser un sourire lorsque celui-ci est bleu, rééditer chaque jour le même trajet, les mêmes gestes visant à nettoyer avec application et une sorte de bonheur dans le travail accompli, ces toilettes hyper modernes, fierté de la ville et dont il s'acquitte avec conscience professionnelle ? Non, avec ferveur. C'est peut-être là justement que réside la beauté du quotidien. Transcender les gestes simples de chaque jour en véritable parcours poétique. Une profession de foi. Wim Wenders, au lieu de répondre à une demande promotionnelle de l'Office du tourisme de Tokyo, choisit la fiction. Quoi de mieux que de raconter une histoire pour toucher au plus profond des êtres. Il propose ainsi une réflexion profondément émouvante sur la recherche de la beauté dans un quotidien tumultueux, gagné par la vitesse et la performance. Un moment de paix et de calme, pour prendre le temps de s'arrêter et de respirer en contemplant l'éclat de ce qui nous entoure. C'est l'éloge de la pleine présence à l'instant présent. Un portrait apaisant et d'une intense beauté, un instant suspendu, empli de grâce, de pureté et de délicatesse. En définitive, il s'agit de nous transmettre ce qui est essentiel afin de supprimer le superflu qui nous envahit, nous submerge. Oui, un plaidoyer anti-consumériste en fin de compte. Koji Yakusho, le magnifique interprète de Wim Wenders, a obtenu pour ce rôle le prix d'interprétation à Cannes en 2023. Juste récompense pour cet acteur qui joue de l'intérieur et nous offre sa lumière.
C'était Geoffroy de Clavière, instigateur des rendez-vous cinématographiques du festival Il est une fois.
Save Tonight de Eagle Eye Cherry sur RTS Première.
Infotrafic RTS.
Le trafic est toujours dense sur la 9 Martigny-Lausanne, car on compte une demi-heure de retard entre Aigle et Vevey en direction de Lausanne. Sur la 1 Genève-Lausanne, un retard d'une dizaine de minutes reste d'actualité entre le Grand Saconnet et Coppet en direction de Lausanne.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Haute fréquence, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à Grégory Roth, Samuel Soquet, Daniel Zacker, François Piton, Mathias Bruniman pour cette édition et à Antonin Barre en régie. Pour réagir à cette église inclusive de Zurich, à la magie taoïste dont les cours s'égrènent à Bulleh dans le canton de Vaud, ou encore à la beauté, merci de composer le 058 134 20 20 ou de nous écrire à hautefréquence@rts.ch. Vous pouvez bien sûr réécouter tout ou partie de cette édition sur le play RTS à l'enseigne de Haute Fréquence. Tout de suite, le labo, et c'est juste après les informations, vous écoutez RTS Première. Il est 20h.